Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On en parle. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Bonjour tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Jinx, bonjour à Mr. Goldenine, bonjour à Phenom Gamer, à Tarto Marwal, à Jinx encore, à Tarto Marwal encore, à Sphéric également, qui est là sur le chat, à Aximilitech, et puis à tous les viewers et vieweuses de l'ombre, je ne vous oublie pas. J'espère que vous allez bien, salut Mariol aussi, salut 13. Je finis mon café, j'ai pas encore eu le temps. Salut Odéla. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé, que vous avez bien dormi encore une fois. On se retrouve comme tous les jeudis matins, parce que généralement pour moi, c'est le jeudi matin. Mais pas la semaine prochaine, parce que je serai en vacances. Il n'y a pas de liaison. Ça pulse, Mariol. Ça va bien. Donc je serai en vacances la semaine prochaine. Mais normalement, on se retrouve tous les jeudis matins pour un petit live d'Actu Tech. On est ensemble jusqu'à 11h. On va parler de pas mal de petites choses. Je vous avoue qu'il n'y a pas une actu tech qui est démentielle en ce moment. C'est un peu la période creuse avant les grandes annonces du printemps et du début de l'été, puisqu'on va avoir l'air de rien dans moins de deux semaines. Merci pour le follow de John42. On va avoir dans moins de deux semaines la conférence Google I.O. La conférence Google I.O. qui devrait... Hop, je remets juste un petit peu la light. Spot en pleine face. La conférence Google I.O. qui devrait être l'occasion pour Google de présenter son nouveau smartphone, le Pixel 7a, exactement comme tu le dis, avec Aximilitech. Il y a la WWDC qui, normalement, je crois, a lieu plutôt courant juin, début juin, généralement. Et Huawei. Oui, si, sûrement. Il y a sûrement des trucs Huawei. Voilà, le 5 juin pour la WWDC. Merci pour l'appel. Et puis, il y a sûrement des trucs Huawei. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison. S'il y a un truc, ce sera couvert sur Frandroid. Voilà. C'est pas forcément une conférence qu'on attend autant. Bon, Huawei, voilà quoi. Voilà. Huawei le 9 mai, P60 Pro. Ok. Nothing 2, probablement. Je sais pas si on a une date. Je suis pas sûr que ça soit pendant le printemps. Nothing, généralement, quand ils sortent des produits, ils ont tendance à le faire davantage pendant l'été, si je dis pas de bêtises, voire à l'automne. Mais ce sera probablement un peu plus tard, mais du coup là c'est vrai que fin mai on est un peu dans une période test complet du Xiaomi 13 Ultra, évidemment, puisque vous avez vu la vidéo de prise en main qui était faite et publiée par Arnaud hier. Titouan a récupéré le smartphone. Alors Titouan est en vacances cette semaine, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore le test qui a été publié sur le site, mais ça arrivera dans les prochaines semaines, évidemment. Il n'y a vraiment rien qui te hype dans ce que va annoncer Huawei. En fait, j'ai utilisé des produits Huawei pendant très longtemps. Là, j'ai encore le Huawei P30 classique, que je trouve très très bon parce que c'est un téléphone petit format, etc. Et pour vous dire, moi, c'est encore un téléphone que j'utilise et sur lequel dont je ne peux plus me passer, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ma clé d'authentification, parce que j'arrive pas à synchroniser OTI, mon application d'authentification double facteur, avec deux smartphones. Et en plus, c'est un téléphone qui faisait de belles photos, qui était compact, en tout cas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Huawei, très bon acteur, très bonne photo, etc. Simplement depuis l'abandon l'embargo américain, parce que c'est pas Huawei qui a abandonné, ils n'ont pas trop le choix. Depuis l'embargo américain, je peux pas. C'est trop de prise de tête pour moi pour le reste. Et en plus, ils sont un peu passés comme tous les autres constructeurs maintenant sur des téléphones grand format. Et aujourd'hui, ce qui me hyperait par exemple, ce serait un Zenfone 10 petit format, mais ça n'a pas l'air d'être l'orientation que semble prendre Asus d'après les dernières rumeurs. Donc moi, je veux un petit format avec de l'autonomie et si possible un téléobjectif qui aille au moins jusqu'à x3. Et ça, sur le marché, c'est pas évident à trouver. Pour une fois, j'ai un ou deux trucs qui m'intéressent pour Huawei. Ok, tant mieux. Hein. Après, moi, comme d'hab, j'ai toujours la même politique. Si vous êtes hypé, je suis content pour vous, tant que vous n'êtes pas déçu derrière. Bonjour à tous, salut Lord Gibus. Salut Monsieur Stel, salut à... Moi j'ai eu seulement le Huawei P10 Lite, je m'en rappelle pas particulièrement du P10 Lite, c'est bah, du coup un peu plus vieux, oui un peu plus vieux forcément. Non, Huawei à une époque je l'ai recommandé, enfin les Huawei et les Honor je les recommandais vraiment à tout le monde, à des amis, à la famille, etc. Pas de Google donc je vois plus l'intérêt de Huawei, bah c'est un peu ça, enfin tu peux faire sans Google mais j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. G-Space, tu récupères. Ouais, mais c'est ça, c'est de la manip. Et en fait, je. Peut-être parce que je suis vieux. Enfin, je suis vieux, j'ai 34 ans. Mais je commence à avoir un peu la flemme de bidouiller. Tu peux pas tout avoir, faut choisir. Exactement, et c'est un peu le problème. Après, en l'occurrence, potentiellement, le S23 peut être une bonne alternative à ce que je cherche. Zenfone 10 Compact, je suis déçu en bien. Bah, Zenfone 10 Compact, c'est mort. Ouais, c'est ça. Désolé, j'ai mélangé vos deux messages avec Similitech et Mariole. Comme on dit ici en Suisse, je suis déçu en bien. Oui, bah, t'es agréablement surpris. Ok, boomer. 34 ans, c'te gueule. Non, oh, hey. Je sais qu'on a que des seniors qui sont à la retraite dans 2 ans, là, dans le chat. Mais quand même, 34 ans, par rapport, notamment. Oh, sur Twitch, peut-être. Mais par rapport à l'audience qu'on a sur YouTube, c'est relativement vieux. Et puis ça fait 10 ans de carrière quand même, hein, messieurs. Non, t'es pas vieux quand même. Le S23 est très compact. Ouais, le S23, ça peut être pas mal. Salut, mon dernier Huawei était le Mate 20 Pro. Grave, le Mate 20 Pro était super. Je crois que c'est Maxime Otaksu qui l'avait testé à l'époque chez nous, qui avait adoré, qui l'avait gardé en téléphone longue durée. Je suis en train de faire un petit truc que j'aime bien parce que c'est tout l'intérêt d'avoir ce type de bracelet. Je vous montre, hein, je suis en train de changer le bracelet de ma montre. Et pourquoi est-ce que bah, c'est bien d'avoir un format ouvert parce que tu peux acheter n'importe quel bracelet sur Amazon, chez un bijoutier, chez un horloger. C'est compatible, ça change en 5 secondes et tu donnes un look un peu différent. Voilà qui devient désagréable, pardon. Je fais plus jeune, c'est gentil, Phenom Gamer. Espèce de jeune, va. Petit jeune, j'ai 36 ans, 40 pour le vieux. Oh, ça va, vous êtes pas si vieux que ça. Bon, de quoi on parle aujourd'hui je vais vous partager l'écran, ce sera plus simple. Hop, le chat disparaît, ou alors je mets l'écran et le chat. Non, le chat disparaît, puis moi je vous vois de toute façon sur le côté, vous voyez bah, sur le chat. De toute façon, puisque vous êtes sur Twitch, c'est tout le principe. Merci pour le follow, Timofav. C'est vrai que la moyenne d'âge du chat doit être de 45. Oui, en vrai, je sais qu'on a un chat de daron, peut-être de Daron aussi, mais bon. Il y en a un ou deux qui rehaussent très largement l'âge, je dirais pas qui, comme ça vous vous sentez tous visés. Et donc on va parler de pas mal de choses ce matin. On va parler d'écosystème iOS Windows, qui a l'air de progressivement se mettre en place. Focus, ça va. Je tente tant bien que mal de rabaisser la moyenne d'âge, mais t'as quel âge toi avec Similitech? Ah oui, non, avec Similitech, c'est vrai que t'es plus jeune. Ça fait du slip ce matin. Oui, non, c'est. Merci pour le follow SixElf. Est-ce que j'ai mis. Oui, c'est bon, j'ai les alertes. Timo Five, jeune 42, j'ai remercié. Et ensuite, c'était. Je me sens pas visé, 31 ans. Ça va, 31 ans. 19 ans. Ah bah voilà. Merci de rabaisser un petit peu la moyenne d'âge. Donc, début d'écosystème interconnecté entre iPhone et Windows. On a Frandroid qui recrute. On va peut-être commencer par ça. On a quoi d'autre? Samsung de plus en plus impressionnant sur les mises à jour. Ça, c'est un robot. On a pas mal de news robots en ce moment. C'est plutôt cool. Donc voilà, on a une autre news robot qui est hop, ici. C'est l'été qui arrive. Hein. On a des tondeuses et des robots de piscine. Xiaomi qui lance un espèce de pistolet à eau, enfin de fusil à eau plus, du marché, enfin des smartphones reconditionnés, des nouveaux véhicules électriques, des news sur le rachat d'Activision. Alors je range un petit peu mes ongles en même temps. Des news sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et d'ailleurs, je vous enverrai peut-être en raid si leur live n'est pas fini. Je crois que Kassim, dans 20 minutes, fait un live chez Gotoz pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, si leur live n'est pas terminé à la fin de... Bah, à 11h, je vous enverrai là-bas. MSI qui annonce un nouveau PC portable gamer, un Garmin qui... Alors, Garmin qui fait pas que des montres connectées, un Garmin qui fait pas mal de choses. Merci pour le follow également, Yannick7738. Garmin qui fait pas mal de choses en dehors des montres connectées et qui fait notamment des radars pour vélo. Et donc, on en parlera rapidement. Et donc, Activision Blizzard également. Et Epic Apple aussi. Epic Apple, vous vous rappelez peut-être, mais depuis 2020, il y a 2020 ou 2021 2020, il y a un procès entre les deux entreprises américaines, et puis on fera le point là-dessus. Salut à toi Yannick. Ça recrute de l'alternance, exactement. Salut Sixelf, et bienvenue sur le chat d'ailleurs, à vous deux. Et bienvenue à Timo Fav. C'est bien, on a plein de nouveaux ce matin, c'est cool. Black Mirror saison 6, effectivement, la bande-annonce a été annoncée. Alors malheureusement, Black Mirror saison 6, le problème, c'est que je ne peux pas... Enfin, je peux vous envoyer le teaser de la saison 6, qui a été annoncé donc du coup hier par Netflix. En revanche, on peut pas le regarder ensemble parce que j'ai pas de retour son PC. Qui est bien pour éviter les notifications que vous entendriez pendant le live Twitch. En revanche, c'est vrai que du coup, je peux pas. Quoi, c'est qui meurt ? Quoi, qui c'est qui meurt ? Bah, en même temps, Black Mirror, il n'y a pas... Black Mirror, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est une série d'anthologie. Quand je dis d'anthologie, c'est pas tant que c'est incroyable, c'est simplement que c'est une série dans laquelle les épisodes ne sont pas liés les uns aux autres. Donc vous pouvez regarder juste un épisode d'une saison, vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, un épisode d'une autre saison, et voilà, c'est des histoires différentes. C'est comme si vous regardiez, comme si vous lisiez un recueil de nouvelles quelque part, sauf que là c'est une série télé, et qui parle d'anticipation. Anticipation, c'est pas mal. D'anticipation dystopique plutôt, à plus ou moins longue échéance, à plus ou moins long terme, et souvent sur le thème des médias ou des nouvelles technologies. Voilà. C'est vrai que, c'est ça, c'est un peu Twilight Zone. Dans les... Parfois, ça vise plus ou moins juste selon les épisodes, mais voilà. Du coup, il faudra attendre ce que la saison 6 pour savoir ce que ça vaut, et si c'est juste critiqué pour critiquer, ou si c'est un peu plus argumenté, un peu plus visionnaire comme ça a pu l'être par le passé. Voilà. Et c'est une série qui est écrite par... j'ai oublié son nom. On va regarder ça ensemble. Black Mirror. C'est une série qui est écrite par Charlie Brooker, qui est un ancien journaliste du Guardian, journaliste spécialisé médias au Guardian. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, pour le Guardian. Je vous recommande pas forcément tous les épisodes, parce que tous, évidemment, ne se valent pas, mais il y en a qui sont très bien. Au-delà du réel aussi. Oui, mais Au-delà du réel était très inspiré de Twilight Zone, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on commence par le recrutement. Comme ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va en parler. Peut-être que je vous poserai des questions, enfin que vous aurez des questions à me poser. En gros, Frandroid aujourd'hui, vous savez, c'est non seulement plus seulement Android, mais c'est également plus seulement les produits tech grand public qu'on met dans une poche, que ça soit des écouteurs sans fil, un smartphone ou une montre connectée. Frandroid, on fait plein de choses, y compris désormais de... Oh, désolé Greg. Hop. Y compris de l'auto électrique, des véhicules électriques, soit des trottinettes, que ce soit des vélos, mais également des voitures. Actuellement, on a Vincent qui s'occupe de cette rubrique-là avec son armée de pigistes. Et donc voilà. Et donc, on recherche quelqu'un qui serait à même de nous épauler et d'épauler Vincent sur cette rubrique-là. Donc voilà. Nous recherchons donc un ou une journaliste en alternance spécialisée dans l'automobile électrique, capable de couvrir sous forme d'articles et de vidéos les sujets liés à l'automobile traités par Frandroid.com. Vous êtes passionné par l'automobile et les nouvelles technologies, etc. Le profil recherché, quelqu'un avec une forte appétence pour l'automobile électrique, avec le goût du conseil juste et capable d'anticiper les différents besoins autour d'une même catégorie de produits, d'un naturel curieux et débrouillard, vous serez intégré en alternance au sein de la rédaction de Frandroid. Actuellement, on a déjà un alternant, Hugo. Et donc ce sera un peu la même idée. Vous serez intégré au sein d'une rédaction, la rédaction pour agrandir et consolider l'expertise de Frandroid sur ses sujets de prédilection. En tant qu'alternant, vous serez accompagné dans votre montée en compétences, évidemment, parce que l'alternant, ça sert à former l'alternant aussi. On en est bien conscient. Lors de cette montée en compétences, vous pourriez être amené à travailler sur d'autres formats comme la vidéo, le live Twitch. Vous pourriez aussi être amené à couvrir des événements comme des salons ou des présentations de produits dans différents pays. Pour réussir à ce poste, quelques compétences sont requises. Évidemment, il faut avoir une affinité très prononcée pour l'automobile électrique, petite faute là, et les nouvelles technologies, le sens du relationnel, une bonne organisation, l'esprit d'équipe, force de proposition et de créativité, savoir lire, écrire et parler l'anglais de préférence, et un orthographe irréprochable. Précisons que le télétravail partiel est possible selon votre degré d'autonomie. Ce poste est par ailleurs ouvert aux personnes en situation de handicap, bien que l'immeuble de la rédaction ne soit pas adapté au PPR. Salaire à déterminer selon le profil. Vous avez l'annonce Welcome to the Jungle ici que je vais vous partager. Et en revanche, sur la durée, parce que c'est une question qui était là sur, sur le live par Eximilitech, j'ai un rendez-vous pendant Unlock. Ah, bah tu pourras regarder en replay. On les a tous, les replays. Alternance, c'est-à-dire... Alternance, c'est ce qu'on a appelé, fut un temps, de l'apprentissage. Grosso modo, c'est quelqu'un qui étudie, donc qui est à l'école, et qui va passer... Ça va dépendre des écoles, ça dépend des formules, mais grosso modo, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Ou 2 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'alternance. Une alternance entre cours et entreprise pendant un cursus universitaire très souvent, ou même des écoles. Tu fais un cursus, tu fais moitié-moitié de cours et d'entreprise très souvent, exactement. Des fois tu bosses, des fois tu fais semblant sûrement. Non, ça c'est l'alternance. Non, c'est pas vrai. Une idée de formation en école, journalisme, ça peut. Alors, ça va dépendre. Et puis ça dépend des écoles qui vont proposer ce type d'alternance. Pour nous, évidemment, ce sera plus journalisme, du contenu web. Enfin, une école de journalisme, une école de contenu web. Éventuellement, une école de communication avec un angle édito, etc. Même si bah, on aura plus tendance à prendre des personnes qui sont en alternance journalisme. En revanche, si jamais tu es... je dis n'importe... Enfin, il faut que ça permette de valider ton cursus. Merci pour le follow, Kawati. Il faut que ça te permette de valider ton cursus. Donc, ça ne sert à rien de le faire avec une école d'ingénieur. L'école d'ingénieur, elle ne va pas accepter que vous fassiez une alternance chez Frandroid. A priori. En tout cas, pas pour un poste de journaliste. Donc voilà, c'est plus sur ce type de formation-là. C'est totalement le genre d'alternance que j'adorerais, mais bon, avec une école d'ingénieur, c'est pas compatible, je pense. Voilà. Bah, après, ça dépend de ton école. Avec Eximilitech, j'imagine. Faut que t'en parles avec tes. Enfin, si jamais t'as la possibilité de faire de l'alternance, faut que t'en parles peut-être avec les personnes qui gèrent ton cursus. Média, communication, journalisme, exactement. Merci. J'ai fait un bac pro en alternance, donc je sais ce que c'est. La question, c'est quelle formation en fait à. Ok, pardon, désolé. Du coup, a priori, je pense ça m'étonnerait qu'on discrimine sur le type d'alternance tant que les compétences sont là, parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai juste fait du droit. Donc je pense pas qu'on discrimine là-dessus. En revanche, c'est plus l'école qui va discriminer, quand je dis discriminer, c'est choisir et empêcher potentiellement. C'est à l'école de valider si c'est possible et si ça rentre dans le cadre du cursus ou pas. Ce serait à l'alternant de trouver la formation. Voilà. Question bête peut-être, mais dans le cas où on a en alternance chez Frandroid, on a exclusivité pour le média, on a le droit de continuer du freelance ou autre pour d'autres médias. Ça va dépendre des angles, parce que l'alternance, du coup, t'es salarié quand même, était salarié en interne. Donc, je pense que ça va dépendre des sujets. Typiquement, si tu, pour reprendre ton cas, Eximilitech, parce qu'il me semble que tu fais des piches chez Clubic, si je dis pas de bêtises, ce serait compliqué de continuer à bosser pour Clubic sur les mêmes sujets, parce que c'est trop proche. En revanche, si tu veux faire un truc pour, je dis n'importe quoi, télé loisirs sur des critiques de séries télé, par exemple, hein, ou jeuxvideo.com ou Gamekult pour des tests de jeux vidéo. Là, il n'y a pas de souci, parce que ça, c'est pas concurrent direct. Sur les, on a évidemment des pigistes qui vont travailler pour plusieurs médias, parce que c'est le principe d'un pigiste, c'est qu'il est freelance et donc il travaille pour plusieurs médias. En revanche, si tu es en interne chez Frandroid, c'est compliqué de proposer des sujets tech à un site concurrent. Dommage de ne pas prendre un vieux journaliste car côté conseil d'un jeune conducteur sur les voitures, lol. Oui, mais en même temps, je pense que c'est une question de budget aussi, c'est qu'un alternant, tu ne le paies pas au même salaire que quelqu'un qui a déjà de l'expérience, etc. C'est pour ça qu'on a Vincent. Hein. Vincent, pour le coup, est un vieux journaliste. On a des pigistes qui pigent aussi pour d'autres sites, genre automobile propre ou d'autres, ou des magazines auto à côté. Là, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qu'on puisse avoir en interne, formé au quotidien, et potentiellement, parce que c'est tout l'intérêt de l'alternance, surtout chez Humanoïde, en l'occurrence, on recrute beaucoup post-alternance ou post-stage. On a des personnes qui sont... Prends l'exemple de Nelly, par exemple, qui est aujourd'hui rédactrice en chef adjointe chez Numérama. Elle a commencé en stage. Il me semble qu'elle a fait de l'alternance. Elle a ensuite été prise en CDI. Elle est montée secrétaire de rédaction. Aujourd'hui, elle est rédactrice en chef adjointe. Donc on a vraiment de l'évolution professionnelle en interne. Et l'idée, c'est de former des gens pour spécifiquement le travail chez nous, quoi. Donc voilà. Et c'est plus facile de former quelqu'un qui est jeune. et le former aux méthodes de l'entreprise. Tout à fait, après ce sont des fiches logicielles dans mon cas, mais je peux comprendre et je fais aussi des news, des tests sur des plus petits médias en bénévole. Mais j'ai un entretien début mai avec l'école, je demanderai au passage, même si j'ai un gros doute sur le fait que ça se passe. Bah écoute, hésite pas, de toute façon j'ai partagé un peu plus haut le lien. Sur la durée, parce que ça c'est une question que vous posiez, sur la durée de l'apprentissage, j'ai pas la durée qui est précisée et j'ai pas les informations. Généralement les alternances c'est au moins un an. Je pense pas que ça monte à 3 chez nous. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Éducation Bac plus 2, expérience non spécifiée, alternance, profil recherché. Ouais, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc voilà. C'est bon signe, ça veut dire deux choses. De plus en plus de véhicules électriques de toute façon. Et deux, plus de taf pour le journal. Oui, pas si mal. Enfin, et les véhicules électriques, aujourd'hui, c'est un gros segment de croissance en termes d'intérêt de la part des lecteurs et donc d'audience chez nous. C'est vraiment des contenus qui marchent très très bien, des articles qui marchent très bien. Les gens sont curieux, ont une appétence et ça va aller en croissant. Et aussi bien les véhicules électriques que l'énergie au global, que la consommation électrique, que tout ça, parce que c'est des questions qui sont très prégnantes depuis un an, je vous le cache pas. Et puis vous le savez, de toute façon, avec la montée des prix de l'électricité et tout ça, c'est des sujets qui sont très pertinents aujourd'hui pour un site comme Frandroid, parce que bah, tout fonctionne à l'électricité, et les véhicules électriques, c'est des technologies aussi, et c'est des technologies qui sont vraiment amenées à évoluer, quoi. Salut Ginta, j'espère que tu vas bien aussi, moi ça va plutôt bien, je suis en vacances demain soir, donc ça va forcément. Merci pour toutes ces informations, en tout cas, je t'en prie, et salut Lexwiss, premier coup. Donc voilà, le recrutement de notre alternant / alternante journaliste, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse et que vous correspondez au profil. Quoi d'autre ? Vers un A. Alors, est-ce qu'on fait les news judiciaires d'abord ? Je pense que oui. C'est les plus grosse news d'hier, en tout cas en termes de répercussions. Donc on va faire ces deux-là d'abord. On va commencer par Epic versus Apple, parce que ça date, ça dure, et en l'occurrence, il n'y a pas de gros chamboulement. Donc voilà. L'arnaque, le film NFT de Kev Adams, je ne l'ai pas... Oh, je suis pas abonné à Mediapart. Je suis abonné à plein de médias, genre Libération, Arrêt sur Image, plein d'autres. Mais Mediapart, je suis pas abonné, donc j'ai pas plus regardé que ça. C'est pas un film de Kev Adams, si j'ai bien compris. Lui s'en est défendu. Mais enfin voilà, je suis pas suffisamment au point pour parler de ça. Scandale. Donc Epic versus Apple. Petit rappel des faits en octobre ou novembre 2020. Depuis fin 2020, c'était ça, hein. Petit rappel des faits, 2020. 2020, Apple et Epic Games sont rentrés dans une bataille à la fois de communication, et d'ailleurs ça c'était tiré d'un espèce de court-métrage qui a été mis en ligne, enfin, un spot promotionnel / de propagande de la part d'Epic. Avec un espèce de slogan et tout ça d'ailleurs, je sais pas si vous en souvenez. Donc il y a une espèce de guerre, guerre sans armes, etc. Mais quand même, guerre commerciale entre Epic et Apple, au sujet à la fois des applications tierces et de la commission reversée à Apple sur les achats in-app sur iOS. Donc, grosso modo, Epic avait attaqué Apple en disant « c'est inadmissible, Apple devrait permettre l'installation de boutiques d'applications tierces sur iOS, comme ils le font sur Android, parce qu'aujourd'hui on a l'Epic Game Store qui est disponible sur Android. » Mais Apple dit non, évidemment, même si ça pourrait changer à cause de la réglementation européenne, en tout cas aux États-Unis, Apple dit non. Et donc il y a un procès qui s'en est suivi. En première instance, Apple a gagné. Et en seconde instance, donc en appel, hier, le site Neowin a rapporté que la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit avait statué en indiquant qu'Apple ne viole pas les lois anti-concurrence enfin les lois en faveur de la concurrence aux États-Unis en n'autorisant pas les boutiques d'applications tierces sur iOS. Donc Apple a tout à fait le droit de ne pas autoriser les boutiques d'applications tierces sur iOS d'après la justice américaine. Voilà, où tu fais bien lors du pub. La pub originale qui avait été mise en ligne par Epic, je sais plus ce que c'était leur slogan. Je clique du coup sur ton lien, comme ça je vérifie si c'était bien ça. Ah oui, la pub originale, ok. Et par contre, je vais vous partager moi la pub Epic, Apple, Fortnite. Je vais mettre l'original, hein. Fortnite. Ah, c'était ça. Ah non, ça c'est le Cinet. Comment ils s'appelaient leur slogan? C'était quoi le slogan d'Epic Games? Vous en rappelez ou pas? Ah, mais merci Emilitech. Alors, t'as mis le Cinet aussi, mais ok. Donc la pub originale, effectivement, qui était une pub Apple de 1984, qui était là pour dire pour que 1984 ne soit pas 1984, comme 1984, donc comme le roman de George Orwell. C'est George Orwell, hein. Oui, George Orwell. Comme le roman de George Orwell, donc on n'est pas en dictature, on n'a pas Big Brother, on n'a pas tout ça, on n'a pas la pensée unique. Et donc à l'époque, c'était Apple contre IBM. IBM, justement, qui symbolisait le... Je vais me couper le son parce que de toute façon, vous l'entendez. IBM qui symbolisait le côté Big Brother avec la pensée unique, etc. Et Apple, il y avait le côté Think Different, donc penser différemment et arrêter avec les PC. Vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. La vidéo d'Epic... en 2021 ou 2020, en 2020, en août 2020, la vidéo d'Epic, donc reprenez ça, et avec le côté, pour le coup, c'est Fortnite qui vient casser sur le côté Big Brother d'Apple. Donc voilà, Epic Games a défié le monopole de l'App Store. En guise de revanche, Apple a bloqué Fortnite sur des milliards d'appareils. Rejoignez le combat pour empêcher 2020, pour faire en sorte que 2020 ne devienne pas comme 1984. Free Fortnite, c'était ça. Voilà. Free Fortnite, merci Eximilitech. Et tu as partagé la vidéo originale, c'est ça? Yes. Donc voilà. Donc il y a un procès. Apple a gagné l'appel. En revanche, Apple n'a pas gagné sur tous les points. Parce qu'en fait, ce qui était reproché initialement, enfin ce qu'Apple avait reproché à Epic dans un premier temps, et c'est pour ça qu'ils avaient bloqué Fortnite de l'App Store, qu'ils avaient empêché le téléchargement de Fortnite, c'est que une mise à jour de Fortnite avait permis Epic Games de payer directement sur pour acheter des éléments cosmétiques sur Fortnite sans avoir à reverser de commission à Apple. Et ça, Apple, bah non. Enfin, si on achète un truc sur une application iOS, Apple doit toucher ses 30% de commission. C'était tout le problème. Sauf que sur ce point, justement, hop, on retrouve le point. Où est-ce que c'était abordé? Je l'ai lu, là, c'est moi qui ai relu la news hier. Donc ça, c'est l'Europe. Voilà, premier point. La décision positive de la Cour rejetant les dispositions d'Apple permet aux développeurs iOS d'envoyer les consommateurs sur le web pour y faire des affaires directement. Nous travaillons de prochaines étapes. Grosso modo, Tim Sweeney, qui est le patron, on va aller voir ses tweets d'ailleurs, le patron d'Epic Games, est quand même content parce que même si Apple a gagné le procès, a gagné l'appel, la Cour d'appel permet aux développeurs d'applications d'intégrer un lien pour un lien web, enfin un lien vers une page HTML, pour que les consommateurs puissent acheter des éléments cosmétiques ou de la monnaie virtuelle ou que sais-je, sans avoir à reverser la commission à Apple. Problème de commission. Oui, voilà, exactement. C'était le moment du scindement de clientèle, justement. IBM est rejeté numéro 1 mondial chez les pros et Apple chez les clients. Oui, c'était, oui, en 1984, c'était ça. Voilà, problème de commission, les 30% qu'Apple se prenait, exactement. Et pour le coup, en plus, cette affaire-là entre Epic et Apple avait eu pas mal de répercussions parce que Epic, Apple, Spotify, Frandroid, il y a eu un front de développeurs qui Spotify, pour le coup, avait pris part à ça. Et Spotify, il y avait Tinder aussi, Deezer aussi. En gros, ils avaient lancé un espèce de consortium de gros développeurs d'applications qui s'appelait la Coalition pour l'équité des applications. Le terme, c'était The Coalition for App Fairness, qui existe encore d'ailleurs, qui a toujours un site internet, où tu vois toutes les grosses applications qui ont fait un site internet pour se présenter contre les commissions trop élevées de la part d'Apple, mais également de Google, hein, parce que Google opère les mêmes pratiques, même si en l'occurrence sur Android, il est possible de passer par une boutique d'applications tierces. Donc quand on regarde les développeurs, il n'y a pas n'importe qui, il y a Tide, il y a Spotify, il y a Match Group, donc Match Group, On se demande qui c'est, mais Match Group, c'est l'un des leaders des applications de rencontres et des sites de rencontres. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est OkCupid aujourd'hui, c'est Mythic, c'est Match.com, c'est Tinder. Donc, c'est un gros acteur. Deezer aussi, en France. Évidemment, Epic Games, parce que c'est un peu eux qui ont lancé le mouvement. Et Spotify. Donc, ça avait eu pas mal de répercussions. Les suites, en l'occurrence, on va essayer de retrouver ça. Le lien initial. Ah, j'ai perdu ma news. Tout. C'était Epic Apple. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que Epic Games va faire appel? Va faire Apple. Apple a obtenu gain de cause auprès de la Ninth Court, Circuit Court, ainsi admis dans une série de tweets Tim Sweeney, CEO d'Epic Games, même si le tribunal machin. Nous n'avions pas prouvé le bien fondé, le Sherman Act, heureusement machin. Pour rappel, alors est-ce que Tim Sweeney a annoncé qu'ils allaient faire appel ou pas? Enfin, qu'ils allaient monter encore plus en justice, parce que bah, pour le coup, c'était déjà une décision d'appel. Il a rien annoncé encore. Ok, donc on sait pas encore où ça va aller. Et là, Apple bloque le lien de Epic Games dans Safari. Bah ça, il pourrait pas. Hein. Enfin, ça, pour le coup, c'est une pratique anticoncurrentielle. Enfin, Match Group est au plus bas côté... Oui, ils sont peut-être au plus bas côté action, mais c'est quand même un acteur hyper important dans le monde des sites... Enfin, c'est le premier acteur, très probablement, sur la rencontre sur Internet ou les applications ou les sites de rencontre. Voilà pour le premier point judiciaire. Deuxième point judiciaire, et là, vous le voyez venir, c'est ça. Grosse news, Activision Blizzard, le Royaume-Uni bloque le rachat. Microsoft et Activision réagissent. Ah, cette histoire dure et s'enlise pour Microsoft. Eh bien écoutez, ça semble assez mal parti. La décision était attendue depuis de nombreux mois et marque un grand défi pour le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. L'autorité de la concurrence au Royaume-Uni a bloqué le rachat. Donc, on a, si je dis pas de bêtises, les États-Unis qui bloquent le rachat. On fera le point après sur les différents acteurs, etc. Mais bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Microsoft a annoncé tout début 2022 qu'il comptait racheter Activision Blizzard King. Depuis... On a une espèce de campagne de lobbying de la part de Sony d'un côté pour dire, enfin Sony et d'autres d'un côté pour dire non, ce rachat c'est trop risqué pour le bien-être de la concurrence. Microsoft risque de tous nous bouffer si jamais ils rachètent ça. Sony qui d'ailleurs est leader sur le domaine des consoles, hein, si on prend pas en compte Nintendo, mais sur les consoles qui se veulent un peu hardcore gamer. Sony est largement devant Microsoft. Et donc, comme tout rachat, il faut que le rachat et ses conséquences soient examinés par les autorités de la concurrence dans tous les pays, mais surtout dans les marchés les plus importants, donc en l'occurrence les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, le Japon, et la Chine, je ne sais même pas s'ils ont ça. Mais bref, en tout cas, c'est au moins ces quatre-là. Il y a d'autres pays évidemment qui vont se prononcer. Je crois qu'Israël s'était prononcé, que le Brésil s'était prononcé, mais bon. La Grande-Bretagne hier a dit non. C'est une décision qui était un peu attendue parce que la Grande-Bretagne s'était déjà montrée, la CMA, donc l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, s'était déjà montrée assez réticente à l'idée de ce rachat-là. Et là, pour le coup, bah, ils ont donné. C'est eux qui avaient dit on sera d'accord si jamais. Microsoft rachète tout Activision sauf Call of Duty, ou tout Activision Blizzard King sauf Blizzard, ou tout Activision Blizzard King sauf Blizzard et King ou Activision. Grosso modo, on voudra pas le rachat complet, mais il faudra démanteler ça. La Commission européenne n'a pas dit non aussi pour le rachat. Non, la Commission européenne ne s'est pas encore prononcée. Ça devrait pas tarder, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, à ma connaissance. Honnêtement, je comprends Sony qui a envie que Candy Crush tombe aux mains du méchant Microsoft. Certes. Je pense que King, aujourd'hui, c'est un acteur mineur, mais c'est vrai que quand Activision avait racheté King, c'était un montant qui était hyper important, hein, là-dedans. Et donc, bah, c'est un gros coup de frein. La firme doit aussi faire face à une tentative de blocage aux États-Unis et l'incertitude de la décision de la Chine et de l'Union européenne. On n'a pas encore ces réponses-là. Le cloud gaming a été déterminant. Ah oui, la raison pour laquelle la CMA a dit non, c'est deux aspects du rachat, déjà en février dernier. L'avenir du marché de la console de jeu face à la PlayStation est celui du cloud gaming où Microsoft a déjà une grande avance. La première crainte a été écartée en mars quand la CMA est arrivée à la conclusion que PlayStation ne serait pas mis en danger par ce rachat, parce que évidemment Sony est largement devant en termes de vente, donc ça pour le coup il n'y a pas trop de risques là-dessus. Concernant la seconde crainte, les nombreux accords signés par Microsoft avec ses concurrents dans le cloud gaming pour garantir l'accès à ces jeux ne semblent pas avoir éteint les craintes de la CMA. Donc là, Kassim, qui a écrit l'article et qui est très, pour le coup, très au point sur ce sujet, alors même si je t'aime beaucoup, Kassim, mais je vais supprimer ta vidéo, Kassim cite la CMA et donc « La décision finale d'empêcher le rachat intervient après que la solution proposée par Microsoft n'a pas permis de répondre efficacement aux préoccupations du secteur du cloud gaming exposées dans les conclusions provisoires de l'autorité de la concurrence et des marchés publiées en février. » Et ce, alors même que, pour le coup, Microsoft a garanti que... que tous les acteurs concurrents, y compris de Cloud Gaming, continueraient à avoir accès à tous les jeux édités par Activision Blizzard King, y compris les Call of Duty, qui sont la plus grosse crainte, hein, évidemment, parce que c'est Call of Duty qui est le gros jeu de ce rachat. D'après la CMA, le marché du cloud gaming est en pleine croissance. Sur ce sujet, Microsoft occupe déjà 60 à 70% des parts de marché britanniques. Le rachat impliquerait la mainmise de Microsoft sur des licences juteuses comme Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft, qui pourraient renforcer cette avance. Microsoft s'est engagé de manière constructive avec nous pour tenter de résoudre ces problèmes et nous lui en sommes reconnaissants, mais ces propositions n'ont pas permis de répondre à nos préoccupations et auraient remplacé la concurrence par une réglementation inefficace sur un marché nouveau et dynamique. En gros, les accords signés par Microsoft n'ont pas convaincu car d'après la CMA, ils ne permettent pas de couvrir suffisamment de modèles économiques. En effet, Microsoft a surtout signé avec des services où il est nécessaire d'acheter les jeux, comme GeForce Now plutôt, que des services à catalogue comme le Xbox Game Pass. Le problème, c'est qu'en vrai, des services à catalogue, il n'y en a pas, à part Sony. Il y a très peu de services de cloud gaming où tu achètes un abonnement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Où t'as les jeux et l'accès aux services. Par ailleurs, la CMA pointe du doigt que les accords ne permettraient pas aux fournisseurs de services de se détacher de Windows pour leur infrastructure, donnant toujours un avantage à Microsoft. Oui, mais aller jouer à World of Warcraft sur un autre OS, je suis pas sûr que ça soit possible, même actuellement. Bref, je suis peut-être un peu biaisé. La CMA connaît le cloud gaming, mais les accords sont déjà signés, du coup. Les accords sont signés. De toute façon, ça changera pas parce que c'était des accords que Microsoft a fait en amont, justement, pour rassurer. La CMA demande un service à catalogue, mais il y en a pas de... Exactement! C'est tout le problème! GeForce Now, c'est pas un service à catalogue. GeForce Now, les jeux, faut quand même les acheter. Là où, pour le coup, Microsoft, les jeux, tu les as. Les jeux sont offerts. Amazon Luna peut-être. Oui, c'est vrai que je connais pas suffisamment Amazon Luna, mais Amazon Luna n'est pas disponible en Grande-Bretagne à ma connaissance, donc la question se pose pas. Après, c'est le but, c'est de rester sur Microsoft. Oui, exactement. Et c'est un peu toute la crainte de la CMS en disant du coup les gens vont forcément passer sur le service de Microsoft. Et s'ils sont déjà abonnés Xbox Game Pass, ou Xbox Game Pass Cloud ou Xcloud, je ne sais quoi, ils vont pas les s'abonner sur GeForce Now. C'est vrai. Microsoft et Activision préparent déjà leur appel, évidemment. Microsoft a été la première à réagir suite à cette décision par un tweet de Brad Smith, le président de Microsoft, en annonçant souhaiter faire appel. La réaction d'Activision Blizzard par voie de presse est, sans surprise, solidaire de la décision de Microsoft de faire appel. Le ton employé par le porte-parole d'Activision est plus musclé. Nous travaillerons de façon agressive avec Microsoft pour retourner cette décision en appel. Le porte-parole affirme carrément que le Royaume-Uni est manifestement fermé aux entreprises. Ah oui! et que les conclusions du rapport ne rendent pas service aux citoyens britanniques. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Bref, l'Union européenne devrait être la prochaine juridiction majeure à rendre son verdict. La date limite est fixée au 22 mai 2023. Avec un premier refus aux États-Unis et désormais au Royaume-Uni, le projet de rachat commence sérieusement à battre de l'aile. Si Activision et Microsoft indiquent aujourd'hui qu'elles souhaitent continuer le combat, cela signifie qu'elles s'embarqueraient dans des combats juridiques assez longs. Le procès avec la FTC pourrait à lui seul durer plusieurs années. Les deux firmes peuvent à tout moment abandonner le projet de rachat, malgré la communication actuelle. Merci pour le follow de Teen Range. Donc, c'est un peu le bordel. Ça a l'air très mal parti et je pense que on va aller voir du coup le gros dossier de Kassim que je vais vous partager dans le chat, qui est mis à jour régulièrement avec les différentes péripéties, là où on en est, etc. N'hésitez pas à consulter ça parce que c'est passionnant et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est actuellement chez Gotoz. Je vais aller regarder, hein, d'ailleurs .tv. Normalement il y a un Kassim sauvage chez Gotoz. Ah, genre de pub. Je regarderai ça après. Après le stream. Pour parler justement de tout ça. Comment la Cour suprême américaine pourrait fragiliser la FTC, la stratégie de la FTC pourrait fonctionner sans aller au procès. Et donc là, il a évidemment rajouté quelque chose sur... mon micro se dévisse. C'est bon. Et maintenant, chanson de Gilbert Bécaud, 1987. À Super l'UE, on sait déjà qu'ils vont encore mettre des bâtons dans les roues. Je pense que Microsoft, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Blizzard. C'est le cas de pas mal de joueurs. Après, c'est vrai, en vrai, enfin, si on prend simplement les arguments de la CMA, ils sont pas si bêtes que ça. C'est très bien pour les joueurs. En revanche, pour la concurrence et pour la possibilité pour des plateformes tierces autres que le Game Pass d'émerger sur le marché du cloud gaming, bah ça laissera très peu de place à de nouveaux acteurs d'apparaître, si jamais Microsoft a un tel catalogue. Donc, en gros, ils sont pas là forcément que pour les consommateurs, ces organismes-là, ils sont là également pour permettre à des services concurrents d'émerger. Et dans ce cadre-là, bah, c'est vrai que si aujourd'hui, Microsoft, le catalogue de Bethesda, son catalogue à lui, plus le catalogue d'Activision Blizzard King, avec des jeux, tous ces jeux qui sont offerts, et en plus... des jeux, tous ces jeux proposés sur les services de cloud gaming, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu irais t'abonner à GeForce Now, par exemple, à Amazon Luna, à Google Stadia, non, mais à tout ça, Microsoft serait hégémonique dans le domaine du cloud gaming, et c'est toute la crainte, c'est que même si Microsoft garantit que Call of Duty sera proposé sur GeForce Now, ce qu'ils ont déjà garanti, bah la différence c'est que sur GeForce Now, il faudra quand même l'acheter, Call of Duty, alors qu'il sera intégré gratuitement sur le Xbox Game Pass. Ça serait une Netflix, ça devient intéressant pendant quelques années, puis hausse de prix une fois qu'il y a une position de monopole. Et ça, c'est également une des craintes de la CMA. CMA, ils ont fait un thread alors, qui n'est pas hyper clair. C'est là. Ils ont fait un thread hier pour expliquer leur décision justement. Voilà. Et donc, certes, il y a la crainte du monopole de la part de Microsoft de l'hégémonie de Microsoft sur le domaine du cloud gaming, mais ils craignent également que les prix n'augmentent en fait. Les preuves consultées par la CMA montrent que Microsoft verra un bénéfice commercial à rendre les jeux Activision exclusifs à sa propre plateforme de cloud gaming, en rendant plus difficile la compétition pour les autres plateformes. Alors, même si ça, pour le coup, ça a été... En tout cas, ce serait le seul à proposer ces jeux gratuitement. C'est là la différence avec les accords passés par Microsoft. Ça ferait Netflix, ça devient intéressant. Ça, je l'ai lu. Mais bon, il faut que les autres se bougent aussi. Sony ne fait pas grand-chose depuis tout ça. Exactement. C'est tout le problème. Mais en même temps, Sony pourrait faire encore... Enfin, arriverait à faire encore moins si Microsoft avait déjà une avance qui était encore plus importante. Donc voilà. Et en gros, il y avait un point aussi sur... grosso modo, la CMA est persuadée que les prix augmenteraient à terme. Si jamais c'est... Donc ce serait moins intéressant. Je ne retrouve pas l'argument en question, mais... Mais du coup, ce serait beaucoup moins intéressant pour les joueurs sur le long terme. Voilà. Et on a Kassim qui doit parler. Voilà, on le voit là. Ah non, vous ne le voyez pas. Mais il doit parler dans les oreilles. J'ai goûté. Je vous enverrai là-bas dans 40 minutes, du coup, après, à la fin du live. N'hésitez pas à consulter. Je vous ai mis l'article un peu plus haut. Les prochaines décisions attendues, évidemment, c'est l'Union européenne. Quel est l'avis... Cassim, il n'est pas au courant du Brexit. Il a mis de la vie du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Comme la FTC, la CMS penchait initialement sur le duel entre Xbox et PlayStation avec au centre la question de Call of Duty, l'autorité britannique a toutefois abandonné cet angle le 24 mars 2023. Elle observe en revanche attentivement le marché naissant du cloud gaming où elle estime que l'acquisition d'Activision pourrait nuire à la concurrence actuelle, Sony et Nvidia, ou futures comme Amazon, Meta, Netflix ou encore Tencent. Depuis 2020, sur tous les dossiers de fusion-acquisition arrivés dans cette phase d'investigation de la part de la CMA, l'agence a pris les décisions suivantes. Ah, ça c'est cool. 5 validations. 4 blocages, 6 validations avec des séparations et 8 annulations de rachat. Concernant les 6 cas de validation avec séparation, il s'agit de cas où l'entreprise a dû se séparer certains éléments issus de la fusion. Dans le cas qui nous intéresse, Microsoft serait contrainte de se séparer d'Activision tout en pouvant acheter Blizzard et King, par exemple. Ces statistiques montrent qu'il est possible de faire approuver son dossier devant la CMA, mais le processus est difficile. Le 12 décembre 2022, une entreprise anonyme, voilà. Et surtout, il y a un cadre hein, en ce moment. Pour justifier ses conclusions, la CMA met en exergue l'avenir du marché du cloud gaming en prenant le contrôle des jeux Activision Blizzard. La CMA craint que Microsoft prenne une importance dominante sur ce marché encore naissant. Elle estime que Microsoft occupe déjà 60 à 70% de ce marché et que la firme a de nombreuses cordes à son arc grâce à ses studios, sa présence dans le cloud computing avec Azure et sa force dans le PC avec Windows. Ce que la CMA craint pour les consommateurs, c'est qu'on arrive à l'avenir dans une situation où les joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un PC de jeu ou une console de jeu soient contraints de passer par du cloud gaming, où Microsoft serait alors le seul fournisseur. Les nombreux accords signés par Microsoft avec des concurrents du secteur ont été notés par la CMA, qui n'a toutefois pas été convaincue. En effet, ces accords portent sur des services de cloud gaming dont l'infrastructure repose sur la vente de jeux et Windows. Autrement dit, Microsoft serait le bénéficiaire direct et le Xbox Game Pass n'aurait pas réellement de concurrence sur le marché de l'abonnement à un catalogue de jeux. Voilà. Ils ont demandé des compromis en février et ça n'a a priori pas suffi. Leur achat va-t-il échouer ? Évidemment, il est impossible de prédire l'avenir, mais on peut raisonnablement évaluer les risques pour le projet de rachat de Microsoft. La CMA et la plainte de la FTC ont compromis sévèrement l'avenir de ce projet. En l'état, pour qu'il soit validé, Microsoft doit obtenir le feu vert de l'Union européenne et de la Chine, puis gagner son procès contre la FTC et enfin réussir à faire appel de la décision au Royaume-Uni. Ouh, ça fait beaucoup de si. Hein. Dans ce cas de figure, il faudra patienter au moins jusqu'en 2024 pour la conclusion de l'affaire et l'appel fait à la CMA. Cela semble peu probable, car pendant ce laps de temps, Microsoft est beaucoup moins agile. Par exemple, la firme ne peut probablement pas se lancer dans d'autres rachats d'importance, même au-delà du jeu vidéo. Si la situation continue d'empirer, avec un refus de l'Union européenne par exemple, il y a fort à parier que Microsoft et Activision Blizzard pourraient jeter l'éponge. Publiquement, les deux groupes veulent batailler pour obtenir cette fusion, mais cela implique beaucoup de temps et d'argent. Les investisseurs pourraient finir par froncer les sourcils. C'est ce qui s'est passé pour Nvidia qui a décidé d'abandonner le rachat d'ARM après la plainte de la FTC et les freins de l'Union européenne. Qui était le gros dernier blocage en termes de rachat qu'on a eu droit dans la tech. Si le rachat peut encore être validé, on ignore aussi quelle forme finale il pourrait prendre en fonction des négociations entre Microsoft, Activision et les autorités. Microsoft pourrait par exemple être contraint par la justice de se séparer d'un morceau du groupe si la firme veut aller jusqu'au bout. Voilà, c'est mal engagé, pour dire le moins. C'est mal engagé. On n'a rien dit quand Sony signait des exclusivités à droite à gauche durant toute la période de la PS4 et même encore de la PS5. S'ils intègrent un catalogue avec God of War, Spider-Man et d'autres AAA, les gens iront bien sur du Sony. Oui, mais c'est différent parce que c'est des exclusivités. Donc c'est des accords commerciaux qui sont signés. C'est pas comme si, en l'occurrence, God of War, Spider-Man et d'autres, c'est des studios qui ont été rachetés par Sony. Mais c'est pas comme si Sony allait racheter Electronic Arts ou Activision Blizzard. Et donc, potentiellement, empêcher le... Il n'y a pas de concurrence dans ce cas. Enfin, il reste de la concurrence si jamais tu signes des accords exclusifs. Puisque le studio en question peut choisir avec qui il va signer un accord. C'est le principe même de la concurrence. Ça va être, en l'occurrence, que Sony ou Microsoft, qui va signer le plus gros chèque, va gagner le truc. Donc, il y a une concurrence. Si jamais ils rachètent le studio en question, là, c'est plus compliqué, parce que du coup, c'est évidemment qu'un studio de chez Sony n'ira pas, qui appartient à Sony, n'ira pas proposer à Microsoft, enfin, ses jeux à Microsoft. Cassie Malik, la réintégration du Royaume-Uni, exactement. Activision Blizzard, ça va être chinois si ça continue comme ça. Moi, j'en doute. Ah, quoique. Allez, Tencent qui rentre dans la danse. Nouvel acteur ou rien du tout en vrai. Ouais, il faudra un nouvel acteur. Hein. Imaginez Google se lance dans le gaming. Non, je dis ça. Non, oubliez. ça n'arrivera pas. Passons à la suite, si vous le voulez bien. On a fini du coup avec Activision Blizzard. Je vais regarder si jamais il y a d'autres actus qui ont été publiées ce matin. Écoutez, on va passer vers l'écosystème. Alors, c'est une news que j'ai pas lue encore, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Google dans le gaming, impossible. Ça renvoie vers quoi maintenant si on va sur Stadia.com? Une mise à jour de Windows 11 permet à l'application mobile connectée qui est une application pour qui va vous permettre de connecter simplement votre PC à un smartphone, ce qui existe déjà depuis un moment sur Android, ce qui est plus ou moins poussé d'ailleurs et qui va permettre notamment sur les Samsung, c'est cette application là qui va vous permettre de voir l'écran de votre téléphone, de lancer des jeux, etc. Et donc une mise à jour de Windows 11 permet à l'application mobile connectée de lire les SMS de l'iPhone et de recevoir des appels. Un grand pas vers l'intercompatibilité. Et ça, c'est vachement cool. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait un peu un double écosystème. Grosso modo, Android fonctionnait justement grâce à cette application plutôt bien avec les PC Windows. Et ensuite, évidemment, iOS, macOS fonctionnent excellemment bien au sein de l'écosystème Apple. Mais maintenant, il va être possible justement de connecter un iPhone avec un PC Windows pour envoyer des SMS. Est-ce qu'on pourra envoyer de lire des SMS et recevoir des appels? Ça, c'est plutôt cool. Une nouvelle mise à jour de Windows 11 apporte ce que les membres du programme Insider pouvaient déjà essayer depuis février. Sur la dernière mise à jour du système en cours de déploiement, l'application mobile connectée peut désormais se connecter à l'iPhone. Ça permet ainsi, comme avec un smartphone Android, de recevoir ses SMS et ses appels depuis son ordinateur sans avoir à prendre son téléphone tant que celui-ci est à portée de Bluetooth. Cette fonctionnalité très pratique au quotidien n'est donc plus réservée à celles et ceux qui ont acheté un MacBook ou aux utilisateurs et aux utilisatrices d'Android. L'application supporte d'ailleurs le système de Google depuis plusieurs années déjà. C'est cool. Quelques restrictions, évidemment, parce que ça va pas être tout. Notons toutefois que cette mise à jour de Windows 11 n'est pas encore disponible pour tout le monde, bien qu'elle soit prévue sur 85 marchés. Si elle n'est pas encore disponible chez vous, il faudra patienter encore quelques jours, puisqu'elle devrait être complètement déployée d'ici à mi-mai. Ça va, 2 semaines, ça va. Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité se montre incomplète. Contrairement à ce que peut proposer l'écosystème d'Apple ou la liaison entre Windows et Android, il est impossible d'envoyer des MMS avec cette liaison au Windows iPhone. Cela vous empêche donc d'envoyer des images, des vidéos, mais aussi de participer à des groupes de discussion. Pour cela, il vous faudra sortir votre téléphone ou passer par une autre application comme Intel Unison. Entre cette nouvelle connexion pour les appels et les SMS et la synchronisation des photos iCloud dans l'application photo de Windows, ça c'est un truc qui arrive aussi assez récemment, on peut commencer à entrevoir un début d'écosystème multimarque. Ça ne sera très certainement jamais aussi complet qu'en utilisant exclusivement des appareils Apple, mais c'est un bon début. Et honnêtement, c'est cool. Je déteste les écosystèmes quand ils sont fermés, quand ils sont ouverts, ça arrivait en novembre, la synchronisation iCloud Windows. Donc c'est vachement bien. Et du coup, c'est agnostique en fait. On peut utiliser ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Et moi, c'est ce pourquoi je milite depuis février 2022. Les écosystèmes, c'est nul. Quand je veux acheter un smartphone, je vais acheter le meilleur smartphone. Quand je veux acheter un PC, je vais acheter le meilleur PC qui correspond à mon besoin. Je ne veux pas acheter le meilleur PC de telle marque parce que je veux être sûr que ça fonctionne bien avec ma montre. Ça n'a aucun sens. J'ai acheté le meilleur casque qui propose la meilleure réduction de bruit, la meilleure qualité audio. Et si possible, sans avoir de blocage qui empêche de profiter de toutes les fonctionnalités parce que mon smartphone n'est pas de la même marque que mon casque. Ça n'a aucun sens. Voilà. 100% tarte au marlot, on est d'accord. Passons à la suite. Et ça, non, vraiment, c'est vachement bien ça. Imaginez un jour on a une Galaxy Watch et puis on peut utiliser l'électrocardiogramme même si on n'a pas un smartphone Samsung. Imaginez, ce serait vachement bien. L'électrocardiogramme qui est intégré à la montre, pour rappel, mais qu'on ne peut pas utiliser si on a un smartphone qui n'est pas un iPhone, qui n'est pas un smartphone Samsung. Parce qu'il faut installer une application qui est disponible uniquement sur le Galaxy Store et non pas sur le Play Store de chez Google. Une aberration de la part de Samsung, ça. Et Xiaomi qui a mis des années à proposer une application pour contrôler ses écouteurs sans fil depuis un smartphone qui n'est pas un Xiaomi. Parce qu'il y a uniquement les smartphones Xiaomi qui permettaient de contrôler, par exemple de mettre à jour le firmware des écouteurs depuis les paramètres Bluetooth du smartphone. Mais du coup, si on n'avait pas un téléphone Xiaomi mais qu'on considérait que les écouteurs étaient les meilleurs écouteurs du marché et qu'on voulait absolument se les acheter pour une raison X ou Y, on pouvait les utiliser complètement qu'avec un smartphone Xiaomi. Ce qui est bête, admettons tu as un smartphone Oppo, tu veux absolument acheter ces écouteurs, bah en vrai, tu vas pas les acheter. Et tu vas certainement pas acheter un smartphone Xiaomi juste pour acheter de nouveaux écouteurs. Maintenant, c'est enfin possible. Mais c'est assez récent. Hein. Et c'est pour ça que les écosystèmes, je déteste ça. Quand ils sont fermés, quand ils sont ouverts et que ça permet aux applications, en l'occurrence à l'iPhone, de mieux fonctionner avec un PC Windows, c'est vachement bien. On va passer à la suite. Si Samsung les mises à jour, ça c'est cool. Samsung de plus, on parlait de Samsung que je critiquais là à l'instant sur l'aspect électrocardiogramme sur les montres qui n'est compatible que si on a un smartphone Samsung. En l'occurrence, Samsung, là où ils sont bons depuis un moment, c'est sur les mises à jour. Et les mises à jour, c'est très important, pas uniquement pour des raisons de sécurité, etc. C'est important aussi parce que plus un constructeur va proposer des mises à jour qui vont durer dans le temps, moins vous serez poussé à changer de smartphone, notamment pour des raisons de sécurité. En mode, ça fait 4 ans que je l'ai, j'ai plus de mise à jour de sécurité, donc du coup, il faut que j'en rachète un parce que sinon, je vais perdre toutes mes données, je risque d'avoir des bugs, des failles, c'est risqué, etc. Et donc, pour rappel, on a déjà parlé la semaine dernière, mais moins vous achetez régulièrement de nouveaux smartphones, moins vous participez. Enfin, plus votre bilan carbone sera faible, parce que ce qui coûte le plus en termes de pollution et de bilan carbone dans la tech, en fait, c'est la production d'appareils. Si jamais vous voulez être écolo autant que faire se peut, faut changer le moins possible de smartphone. Et pour changer le moins possible de smartphone, encore faut-il que les smartphones soient mis à jour régulièrement. Samsung continue de montrer sa volonté de déployer longuement de ses mises à jour Android sur l'ensemble de sa gamme. Son dernier né à petit prix aura ainsi droit à 4 ans de mise à jour majeure. Ça, c'est cool. Niveau mise à jour, Samsung bat même Google. Oui. Ah oui. Il y a que bilan quoi, je connais pas ça. En vrai, c'est compliqué quand t'es dans la tech de pas changer souvent. Faut aussi astreindre. Puis en vrai, ça coûte moins cher de pas changer souvent. Et puis avec les nouveautés qu'il y a sur des smartphones en 2023 par rapport à ceux de 2021, ça sert à rien de changer. Hein. Il n'y a pas de différence. Enfin, moi pour le coup, les trois téléphones, j'ai testé en téléphone longue durée, j'ai testé l'Oppo Find X2 Pro en 2020, le Pixel 6 Pro en 2021 et le Vivo X80 Pro en 2022. En fait, l'Oppo Find X2 Pro, que je dois toujours avoir ici d'ailleurs, l'Oppo Find X2 Pro, il reste vachement bien aujourd'hui. Il reste vachement bien et je vois très peu de différence entre le Vivo Find X2 Pro et entre l'Oppo Find X2 Pro et le Vivo X80 Pro. Donc bon, s'ils sont revendus, ça n'a pas grosse incidence, c'est vrai. Mais les téléphones Android sont compliqués à vendre. Ils perdent beaucoup de leur valeur. On en reparlera d'ailleurs après sur... en vrai, qui garde son téléphone 5 ans ? Pas grand... Bah si, mon père, ma copine, je crois que c'est pareil, ça va être autour de 5 ans, généralement. Donc ça arrive, hein. Sur le Asus ROG 7, c'est 2 ans de mise à jour. Après, il y a beaucoup de bugs. Bonjour à toi, Petrel. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Mais je te crois sur le ROG Phone 7. Ah non, le Zenfone 7, peut-être. Tu utilises encore le Find X2 Pro ? Non, je l'utilise plus. J'utilise plus, mais je pourrais. Pourrais, parce que c'est à peu près le même format entre les deux. Il est même un poil plus léger que mon X80 Pro. Ouais, je pourrais. Mais de toute façon, j'ai le X80 Pro, donc je... Voilà. Je les achète avec des offres très intéressantes et je les revends quasiment le prix acheté. Ok, bah tant mieux. Pour Samsung, donc du coup, on parle du Galaxy A24. Depuis que Samsung a annoncé passer ses smartphones à 4 ans de mise à jour, à 4 mises à jour majeures au lieu de 3 sur le haut de gamme, la marque n'a cessé d'étendre sa politique à des téléphones de plus en plus abordables. Ainsi, on a vu la gamme Galaxy A50 en bénéficier, puis la gamme Galaxy A30. En 2023, c'est finalement le Galaxy A24, fraîchement officialisé, qui en profite. Ce smartphone d'entrée de gamme possède une fiche technique bien moins impressionnante que les fleurons actuels. À son bord, on retrouve notamment un MediaTek Helio G99 que l'on aurait pu imaginer problématique pour le support logiciel à long terme de l'appareil. Pourtant, sur le site vietnamien de Samsung, on peut lire que le Galaxy A24 est doté de l'interface One UI 5.1, basée sur Android 13, et supporte jusqu'à 4 versions du système et 5 ans de mise à jour de sécurité. Ce qui est impressionnant ici, c'est que ce smartphone coûte moins de 300$ dans les pays où il est annoncé. La France n'en fait pas partie actuellement, mais on peut comparer au prix du Samsung Galaxy A23 5G lancé à 320€ l'année dernière dans nos vertes contrées. À titre de comparaison, un Pixel 7 Pro de Google lancé à 900€ n'a droit quant à lui qu'à 3 mises à jour majeures. Ce petit Galaxy A24 sera donc mis à jour plus longtemps que celui que certains nomment l'iPhone d'Android. Donc non, c'est cool. C'est vachement bien, et effectivement, comme le dit Manu dans son article, il serait bien que Google se décide enfin à montrer l'exemple et à améliorer son support logiciel. On sait que le plus gros frein à ce niveau est généralement la compatibilité des drivers de certains composants, dont le SOC, avec les nouvelles mises à jour. De son côté, Google n'a vraiment aucune excuse puisque ses téléphones disposent d'une puce maison, le Tensor G. Et en plus, Google, c'est pas comme s'ils avaient une armada de smartphones, ils en sortent actuellement 4 par an, 3 par an. Donc 4 avec le Pixel Fold qui devrait être annoncé également dans 2 semaines. Mais donc, on espère que Google annoncera des bonnes choses de ce côté-là dans bah, la Google I.O. quoi. Perso, j'avoue être passé d'un changement tous les ans à tous les 3 ans en moyenne, mais je sais pas si je vais encore garder plus longtemps. Et soyons honnêtes, avec l'utilisation que je fais, il commence à claquer après 3 ans et demi max. Oui, non, mais après, faites selon ce que vous pouvez, hein. je suis pas le guide de l'écologie non plus. C'est simplement que, évidemment, sur Frandroid, on parle de tech, on teste des produits, mais c'est pas parce qu'on teste des produits qu'on va vous recommander d'acheter des produits et de renouveler vos téléphones régulièrement. Je sais plus où est-ce que j'ai vu une vidéo, enfin, en commentaire d'une de nos vidéos YouTube, je disais quelqu'un qui expliquait qu'il changeait, qu'en 3 ans, il avait eu 6 smartphones. Et ça, je trouve ça tellement aberrant. Changer de téléphone tous les 6 mois, déjà ça coûte cher. L'impact environnemental est tellement important. Enfin, bref, vous faites ce que vous voulez. Mon Google Pixel 3a a claqué à 2 ans et 2 semaines. Oui, bah après, si votre téléphone ne marche plus, en vrai, il n'y a pas de raison. Dans la bulle, le mec. Ouais, non, mais c'est une fierté. Et il n'y a pas de quoi être fier de claquer. J'imagine qu'en plus, s'il change tous les 6 mois, c'est qu'il change pour des modèles haut de gamme. Mais sans même parler d'environnement, ça coûte aujourd'hui 1000 euros un smartphone haut de gamme. 1000 euros tous les 6 mois en budget smartphone. Je connais qui font ça, mais avec des voitures. Oui, mais sur les voitures, tu as du leasing qui va te le permettre de le faire beaucoup plus facilement. Donc la voiture, elle est produite quoi qu'il arrive, quelque part. Je trouve ça impressionnant de voir Samsung proposer 4 plus 5 sur du haut de gamme, 6 par an. Et le milieu de gamme, c'est plus que Google ou Vivo. C'est plus Google ou Vivo que j'aurais vu là-dessus. Exactement. Samsung est un très très bon élève là-dessus. J'en suis à plus de 250 téléphones en 25 ans. Non. J'ai du mal avec le second degré. Hein. J'ai un détecteur d'ironie qui n'est pas toujours présent. LG Snake, pour l'instant, je te prends au mot et je trouve que tu abuses un petit peu. Voilà. Tu abuses un petit peu. Si, non mais franchement, bah tu abuses beaucoup. 250 téléphones en 25 ans, ça fait 10 téléphones par an. 10 téléphones, non. Mais pourquoi? Vraiment, je suis curieux, pourquoi? On va repasser comme ça. Hein. À l'époque, je changeais tous les 2 mois. Mais même tous les 2 mois, ça fait pas 10 par an. Les téléphones fixes, non voilà, les téléphones fixes, ça compte pas. Et encore, enfin, qui change de téléphone? J'en ai même plus, moi, de téléphone fixe. J'en avais toujours 2 en même temps, juste pour tester tous les OS. Après, en vrai, moi, à une époque, je changeais tous les ans, au début, hein, début des smartphones. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai plus. Ah, mon Essential Phone. Ça, c'est le téléphone de l'amour. C'est un des derniers téléphones que j'ai acheté. Parce que, bah, évidemment, vous en doutez aujourd'hui. Les téléphones que j'utilise, c'est ceux que je teste pour Frandroid. Et comme j'en teste pas tant que ça, généralement, je les garde 6 mois et on en fait des tests longue durée. Je retrouve plus, j'avais un HTC Magic, tout premier smartphone Android, le mien en tout cas, c'était HTC Magic, que bah du coup j'aimais beaucoup. 2 que je change tous les 2 mois, ce qui faisait 1 par mois. Ouais, non mais du coup, oui, effectivement, le compte est bon. J'ai toujours changé mes smartphones tous les 4 ans. Ouais, bah vrai, tous les 4 ans c'est un bon rythme. C'est plutôt un bon rythme, c'est un rythme qui correspond à... En plus, tous les 4 ans, l'avantage c'est que tu vois des évolutions. Si tu changes tous les ans ou tous les 6 mois, bah... Déjà, tous les 2 ans en ce moment, c'est quand même compliqué de voir des évolutions majeures d'une génération à l'autre. Mais tous les 6 mois, ça n'a absolument aucun intérêt. HTC, j'ai adoré HTC. Moi, mais. On va faire ça ensemble. Partage d'écran. Hop, mes smartphones. J'ai eu le HTC Magic, le HTC Desire, le HTC Desire HD. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite? J'ai encore eu du HTC One. X, HTC One M8, j'ai beaucoup d'HTC. Hein. Zoom dans... Ouais, je vais pas pouvoir. Comment je peux faire ça proprement? Zoom dans le texte, parce que c'est... Ah si, yes! Je savais même pas qu'on pouvait zoomer dans... voilà. HTC One X, HTC One M8, j'ai eu... Le Nexus One, il était basé sur quel smartphone de HTC? Il y a forcément des gens qui savent ici. Nexus One, c'était... C'était HTC Desire, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais en fait, le Nexus One est sorti en même temps qu'un autre téléphone de... Enfin, était conçu par HTC, parce qu'à l'époque, c'était... Mais je sais plus quel téléphone de HTC. Il me semble que c'était le HTC Desire. On va dire que c'était ça. Donc quoi d'autre? J'ai eu beaucoup de HTC, évidemment. Oui, non, bah, y a eu des Nexus par Samsung, par LG, par Huawei. Bah, par Huawei, d'ailleurs, j'ai eu le Nexus 6P. J'ai eu le Motorola, Motorola Moto X, celui en bois, Moto X bois. À l'époque où Motorola appartenait à Google. Motorola Moto X en bois, c'était celui 2014. Moto X 2014... ChatGPT me confirme que c'est inspiré du HTC Desire. Ok, cool, merci. Merci ChatGPT. Et je pense qu'on est bon. Bah ensuite, non, le Essential Phone. Essential. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez ça. Essential, son vrai nom, c'est ça, à l'Essential Phone. Pourquoi? Parce que... Ça, c'est marrant. Enfin, c'était... Voilà, c'est un truc de gros nerd. Parce que Essential Phone, c'est PH1, PH-ON, donc ça fait phone. Ouais, ils sont forts, exactement. Après le Motorola, dans l'ordre, je crois que c'était d'abord celui-là et le Nexus 6P, mais je crois que j'ai eu un autre HTC entre temps, mais je sais plus lequel. Desire, Desire HD, One X, One M8, Motorola X 2014. Non, mais je pense qu'on est bon. Hein. J'ai eu beaucoup de HTC. Cet article qui est resté. Ouais, bah oui. Ah, mais honnêtement, ça reste un. Enfin, c'est vraiment un téléphone que j'ai beaucoup aimé utiliser. En fait, qui est petit, qui est compact, qui tient dans la main, qui était réactif, qui avait une interface, un logiciel qui était. On parlait de mise à jour. En l'occurrence, Essential, ils annonçaient les mises à jour d'Android avant même Google. Enfin, ils déployaient les mises à jour Android avant même Google. Donc, non, c'était très bon téléphone. Les ingés, que l'humour. Ouais. HTC Desire, mon premier smartphone d'ailleurs, il est toujours dans mon tiroir. Non, mais je dois encore les avoir quelque part. Et après, bah, depuis, c'est Frandroid. Donc, du coup, chez Frandroid, forcément, je ne teste plus. Enfin, je n'utilise quasiment que des... Je suis infidèle à Frandroid. Je suis devant Gotoz et Kassim. Bah, de toute façon, je vais raider dans 10 minutes, hein, Batix. J'espère que ça va bien. J'espère que Kassim parle bien, d'ailleurs. Mais je vais raider Gotoz dans 10 minutes. Donc, voilà. Voilà pour les smartphones que j'ai achetés à travers le temps. Donc, en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 en 8 ans, grosso modo. Ouais, parce que ça, c'est 2009, 2008 peut-être, et le PH1, j'ai acheté en 2018. Donc 8 en 10 ans. C'était quand même un par an, c'était beaucoup. Mais à l'époque, il y avait plus de nouveautés qui sortaient, il y avait plus de... Voilà, c'était un peu plus intéressant pour ça. Il a son pull PlayStation. Bah évidemment qu'il a son pull PlayStation, parce que c'est un nerd. Les robots. On a un robot tondeuse qui a été annoncé. On en a testé un d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le site. On a testé un il n'y a pas longtemps sur le site. Et c'est vrai que les robots tondeuses, c'est un truc qui... J'ai l'impression... Alors, c'est peut-être la période, hein, c'est peut-être parce que c'est l'été, etc. Enfin, le printemps et que l'été arrive et que... Voilà, mais les robots tondeuses, j'ai l'impression que ça commence à prendre de plus en plus. Et du coup, on en a testé... Oh, on ne l'a pas mis en prise en main. Bref, Ulrich a fait une prise en main il n'y a pas longtemps, enfin, il y a deux jours, d'un robot tondeuse. Donc voilà. Robot de piscine, évidemment, aussi. Donc robot de piscine, un nouveau avec et sans fil qui va filtrer du coup la piscine, donc ça c'est plutôt bien si vous avez une piscine, hein. Pareil en termes de bilan carbone, les piscines c'est pas top, mais bon. Xiaomi qui lance le Pulse Water Gun. Après les smartphones, PC, tablettes, aspirateurs robots, montres, caméras, friteuses, TV, lampes, batteries, voitures et coupe-ongles, Xiaomi était désormais sa gamme de produits en explorant une nouvelle catégorie. Voilà, pistolet à eau le plus sophistiqué et le moins dangereux du marché, surpassant même le lance-flammes de The Boring Company. Avec ses trois modes de tir, coup par coup, rafale et longue portée, le Pulse Water Gun s'assure que vos adversaires trempés ne seront pas les seuls à être surpris. Les effets lumineux dynamiques avec les LED attachés sur le côté clignotent en fonction de... Oh. Ce pistolet à eau high-tech est alimenté par une batterie d'une capacité de 1800 mAh, se recharge via un port USB type C standard et atteint une charge complète en 5 heures et une charge en eau en seulement 10 à 15 secondes. Enfin, c'est ce que prétend le fabricant. 79€. Au prix d'environ 100€ en Chine, campagne de financement participatif avec une réduction qui amène le prix à environ 85€ et précommande uniquement en Chine pour l'instant. Si vous êtes hors de Chine et souhaitez un pistolet à eau high-tech, le Spira est disponible pour environ 79€. Qu'est-ce que c'est que le Spira, Ulrich? Qu'est-ce que c'est que le Spira? Est-ce que c'est aussi poussé que celui de Xiaomi? Je suis pas sûr. L'été arrive, hein. L'été arrive. C'est quoi l'utilité d'un robot de piscine? C'est nettoyer la piscine. Ça va aspirer toutes les poussières, toutes les plantes, éventuellement filtrer également si jamais tu as des algues, de la mousse ou des algues qui arrivent au bout, etc. Donc c'est pour nettoyer la piscine. envoie le lien de l'achat de ce pistolet. Je vais vous envoyer le lien de l'article d'Ulrich et comme ça vous pourrez cliquer sur le lien en bas. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit au début du live, il n'y a pas de grosses news incroyables ce matin. Donc voilà. Ah si, et voilà, on parlait tout à l'heure de revente de smartphones, et je vous disais qu'Apple était un peu un cas à part, puisque Apple se revend bien, les iPhones se revendent bien traditionnellement, parce que bah, déjà, ils baissent très peu de prix, contrairement aux constructeurs Android, et du coup, bah, ils se revendent bien, y compris un an après leur rachat, et ils se revendent bien également en reconditionné. Si vous étudiez l'offre de ces entreprises, donc des entreprises de reconditionnement, vous constaterez que les iPhones dominent leur catalogue. Ce phénomène est observé à l'échelle mondiale et cela s'explique très bien. C'est un petit article d'Ulrich, encore une fois, d'hier. La marque est également omniprésente sur le marché des iPhones reconditionnés. Lorsque l'on cherche un smartphone reconditionné, il est presque impossible de ne pas tomber sur des iPhones. Les références de Samsung et parfois d'anciens modèles Huawei sont bien présentes, mais elles sont largement surpassées par les offres. Contrairement aux ventes de smartphones neufs, les ventes de smartphones reconditionnés évoluent positivement depuis 2020. C'est cool, il y en a de plus en plus. Selon les données de Counterpoint Research, le marché des smartphones reconditionnés a augmenté de 5% en 2022, tandis que les ventes de nouveaux appareils ont chuté de 12%. Donc les gens achètent de moins en moins de nouveaux smartphones, mais quand ils vont en acheter, ils vont plutôt, en tout cas davantage qu'avant, se tourner vers le reconditionné. Pour le coup, pour l'impact environnemental, c'est plutôt cool. Avec une part de marché de 49% en 2022 au niveau mondial, Apple est le constructeur le plus représenté sur le marché du reconditionné et a su progresser par rapport à 2021. Où il avait 44% de part de marché. Et suivi par Samsung avec une part de marché de 26%, le constructeur sud-coréen s'est détérioré de 2 points de pourcentage par rapport à 2021. Parce que j'imagine qu'en 2021, il était à 28%. La domination des iPhones sur le marché du reconditionné peut être expliquée par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, Apple assure une longévité importante à ses appareils avec des mises à jour iOS pendant au moins 5 ans. Ces dernières assurent la compatibilité des applications, mais elles apportent aussi de nouvelles fonctionnalités, améliorent la sécurité et optimisent les performances des iPhones. En conséquence, les consommateurs se sentent en confiance en achetant un iPhone reconditionné, sachant que leur appareil restera compatible sur le plan technologique et bénéficiera des améliorations apportées par de futures mises à jour d'iOS. Les iPhones sont également connus pour leur valeur résiduelle élevée par rapport à d'autres smartphones, la qualité de fabrication, la durabilité et la demande constante pour les produits Apple contribuent ainsi à maintenir la valeur des iPhones sur le marché d'occasion. Les iPhones reconditionnés sont souvent perçus comme des investissements judicieux, offrant un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs à la recherche d'un smartphone haut de gamme à un prix plus abordable. Enfin, Apple propose des programmes de reprise et de recyclage pour les anciens iPhones, ce qui incite les consommateurs à retourner leurs appareils lorsqu'ils souhaitent en acheter un nouveau. Ces programmes permettent à Apple de récupérer et de reconditionner un grand nombre d'iPhones qui sont ensuite remis sur le marché à des prix attractifs. Voilà, voilà. Je vais mater grave. Forcément, un iPhone 9, c'est cher. Il n'y a jamais de promo. Moi, j'ai pas encore confiance aux gens qui font le reconditionnement. On ne sait pas comment ils le font, le reconditionnement. T'as pas mal de reportages qui ont été faits. Je crois qu'on a dû en faire un d'ailleurs. Je crois que chez 01net, ils en avaient fait un aussi. Pour expliquer comment ça se passait en vidéo pour le coup. Frandroid. Ah voilà, on avait fait ça. Donc on sait un peu comment ça fonctionne. Alors c'est pas partout pareil. Mais ça peut déjà vous permettre de savoir comment ça fonctionne. Écoutez, il est 10h57. Ça fait 1h30. On va pouvoir s'arrêter là. Je vais lancer le raid vers chez Gotos. Hop. Et sur ce, je vais vous abandonner pour aujourd'hui, les copains. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end de 3 jours. Et puis normalement, c'est un week-end de 3 jours pour à peu près tout le monde. Puisque le 1er mai est un jour férié pour normalement à peu près tout le monde. Si jamais vous travaillez dans des métiers s'il y a des cheminots, vous travaillez quand même le 1er mai. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée également et je vous dis non pas la semaine prochaine parce que je serai en vacances, mais à la semaine suivante. Et n'oubliez pas, cet après-midi, Unlock, donc l'émission hebdo de Frandroid, à partir de 17h sur cette même chaîne Twitch, on va parler de plein de choses et ce sera plutôt cool. Voilà, moi sur ce, je vous embrasse bien fort. J'entends bien Not in Range, j'entends bien. Et je vous dis à dans 2 semaines. Des gros bisous à tout le monde. Je prépare le raid. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.